Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de Sporama sur VOA Afrique, la radio planétaire pour parler du sport mondial comme tous les lundis. Et ce soir, on parlera des championnats d'Afrique de handball junior et cadet qui ont eu lieu à Conakry en Guinée. Puis, c'est parti pour la deuxième édition de la Basketball Africa League qui se jouera en trois phases cette année. La première a démarré ce week-end à Dakar au Sénégal. Et pour débattre de tous ces sujets, on retrouve comme d'habitude nos consultants le plus proche de moi, Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir.
De Dakar au Sénégal, on retrouve Amédine Sy qui suit de près pour nous la balle. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
À Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simo Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ngwe est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Et puis, Amine Birouk nous fait le plaisir de nous recevoir depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Lizzy, bonsoir à tous.
Sporama, c'est parti. C'est parti sur les paquets de Dakar, les premiers paniers de la deuxième édition de la Basketball Africa League. Comme lors de la première édition, 12 équipes de 12 pays différents sur la ligne de départ. Et pour cette seconde édition, elles sont reparties en deux zones de 6 équipes, la conférence Sahara et Nil. L'enjeu, 4 places pour la phase finale qui aura lieu en mai à Kigali au Rwanda. Le Sénégal accueille donc un premier tournoi de qualification. Amédine, c'est toujours un parfum de NBA sur le continent africain et le show à l'Arena de Dakar. Mais ça commence mal pour les étudiants de Dakar Université Club battus par les Guinéens de Slack 70-85.
Tout à fait, Élisée. Pourtant, les pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop avaient bien réussi leur entrée en matière dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest en remportant les deux premiers quarts-temps. Mais au retour des vestiaires, le Duc a peiné à mettre en place son jeu face à une formation de la Guinée qui s'est rébuffée en renversant la tendance. Les Guinéens, très à l'aise dans ce troisième quart-temps, ont inscrit 32 points contre 11 seulement pour les Sénégalais. D'ailleurs, le club de la Guinée a remporté ce troisième acte de fort belle manière avec 13 longueurs d'avance, 69 à 56. Le dernier quart-temps ne sera qu'une formalité pour les Guinéens qui vont allier spectacle et efficacité en s'imposant par 85 à 70 grâce à l'Américain Marcus Grasford, meilleur marqueur de cette rencontre avec 30 points côté sénégalais. Diakité, auteur de 17 points, a tiré son épingle du jeu. Mais comme le dit l'adage, une hirondelle ne fait pas le printemps, Élisée.
Grande performance donc des Guinéens amenés par l'Américain Marcus Crawford, auteur de 30 points. Tout ceci grâce à leur coach qui les a galvanisés à la mi-temps, selon Diumba Mara, l'ailier du Slack.
On savait que ça allait être dur parce qu'on joue avec une équipe qui joue chez lui, il y a son public et tout, donc on a pu s'en sortir. Chaque équipe a son coup. Hein. Ils ont eu leur carton au premier et deuxième, donc il fallait qu'on arrive à se concerter, voir les failles et essayer de rattraper ça vite pour essayer de gagner le match, c'est ce qu'on a fait. La motivation du coach, parce que là, c'est un gars qui n'arrête pas de nous motiver, les gars. Il faut y croire, c'est sur deux hockey, mais c'est du basket. Ça se passe entre 5 joueurs, donc il faut jouer. Donc c'est ça, c'est la motivation.
Une autre sensation lors de cette première journée, celle des Rwandais d'Energy Group, victorieux des Marocains de la SALE 91 à 87. Amine, mauvais départ également pour le représentant du Royaume.
Compétition où il y avait 6 équipes engagées et 4 devraient se qualifier pour le tour final. L'association sportive de Salé avait la possibilité de griller un joker. Elle l'a fait dès l'entame de la compétition face au champion du Rwanda, une défaite 91-87, face à un adversaire qui s'est montré beaucoup plus efficace sur les tirs à longue distance et qui a perdu beaucoup moins de ballons qu'une équipe de l'ASS qui s'est montrée fébrile dans ce compartiment du jeu. Quelques interrogations au niveau du coaching et sur le niveau des joueurs étrangers recrutés exprès pour cette compétition, à l'exception de Skoglin, qui avait déjà fait ses preuves lors de l'édition finale qui avait eu lieu au Rwanda l'année dernière. Ce qui est certain, c'est que l'ASS a du pain sur la planche. Il va falloir gagner 3 matchs sur 4 possibles pour envisager une qualification sereine et une présence une nouvelle fois dans la plus prestigieuse des compétitions africaines.
Les Tunisiens de l'US Mounasti n'ont pas, eux, raté leur entrée, même si ça a été difficile face aux Mozambicains de Ferroviaro Beira, 77 à 71. Le finaliste de la première édition s'est imposé dans la douleur, reconnaît son meneur de jeu, l'Ivoirien Souleymane Diabaté.
C'est une bonne victoire parce que c'était une victoire qui était difficile, très difficile même. On a réussi à gagner dans les trois dernières minutes et je pense que c'est une bonne chose pour l'équipe parce que c'est une nouvelle équipe. Moi, je suis un nouveau joueur de l'équipe, je suis arrivé il y a 10 jours. Voilà, donc on ne se connaît pas encore. Mais le fait de pouvoir gagner un match aussi difficile comme aujourd'hui, malgré qu'on ne se connaît pas, c'est très bien pour la suite.
À noter que le second tournoi de qualification aura lieu au Caire en Égypte du 9 au 19 avril prochain et ça concerne les 6 clubs de la conférence Nil. On vient vers vous, Valdo. Et les Congolais d'Espoir Foukache de Kinshasa devront batailler fort pour obtenir leur qualification.
Tout à fait, Élysée. Espoir Foukache de la RDC est dans l'obligation de poursuivre avec son élan. Cette fois, les niveaux s'annoncent d'un cran au-dessus que l'étape précédente de cette Basketball African League qui avait vu le club de la RDC créer la sensation en devenant le premier à s'inviter à cette étape alors qu'elle n'était qu'à sa deuxième année de création. Jouer le champion en titre, les Amalek et Pedro de Luanda, il faudra vraiment assurer. Heureusement que c'est une bataille à 6 pour 4 places qualificatives au rendez-vous final. La solution à cette équation est donc déjà connue et le club de la RDC tient à poursuivre avec sa dynamique, jouer sans complexe, en faisant douter ses adversaires de quelque calibre que ce soit. Dans l'entretemps, le champion du Congo poursuit avec sa domination au niveau du championnat de Kinshasa. Le week-end, Foukache a été largement supérieur face à Don Bosco qui l'a battu 65-44, consolidant ainsi sa première place au classement de ce championnat, ce qui du reste annonce du positif pour cette formation de la RDC.
Merci Valdo. Alors Lawal, une deuxième édition est déjà des nouveautés avec les équipes réparties en conférence comme à la NBA et la phase finale pour désigner le champion et ce sera une fois encore à Kigali au Rwanda.
Oui Élysée, il fallait donc cette deuxième édition de la Basketball Africa League pour montrer que les Africains peuvent eux aussi, quand il s'agit d'innover, ils peuvent le faire. Et quand on sait que c'est sous la coupole de la NBA, c'est tout à fait naturel que ça se passe de cette façon. Et aujourd'hui, ça montre que le basketball a commencé à prendre de l'envergure sur le continent. Rien qu'à voir les déplacements vers les parquets pour suivre la conférence Sahara à Dakar, c'est déjà important et intéressant de voir que les gens s'intéressent désormais à cette discipline. Ils doivent pouvoir partager cette envie-là avec les autres qui n'ont pas encore atteint ce niveau.
Handball à présent avec les championnats d'Afrique des Nations juniors et cadets qui se sont déroulés à Conakry en Guinée et chez les cadets. C'est l'Égypte qui a survolé le tournoi avec 5 victoires en 5 matchs. La dernière face au pays hôte 35-31. Amine, le handball féminin se relève aussi en Égypte. Les jeunes filles se sont illustrées à Conakry.
On peut dire aujourd'hui que le handball est le sport numéro 2 en Égypte. Il y a aujourd'hui une véritable ferveur autour de la discipline. On a pu le constater lors du dernier mondial qui a été organisé au pays du Nil. Les résultats des équipes nationales égyptiennes masculines, que ce soit lors de la Coupe du Monde ou lors des Jeux Olympiques. Et puis, il y a la petite cerise sur le gâteau, les performances du handball féminin. Preuve en est donc ce titre mérité, gagné au panache, et qui prouve que c'est un pays qui travaille au niveau des jeunes, qui travaille au niveau de la formation, qui ne néglige aucun aspect pour que la discipline puisse continuer à dominer le continent africain. Ce triomphe des féminines prouve également qu'il y a un apport de cadres qui ont un savoir-faire au niveau du handball et qui ont permis à l'Égypte d'atteindre cette position. On dira tout simplement que la quantité amène la qualité, que la qualité du travail amène la performance et qu'à ce niveau, au niveau du handball, l'Égypte est en tête en Afrique.
Au niveau des juniors, c'est l'Angola qui remporte le trophée après avoir battu in extremis l'Égypte en finale 18-17. Valdo, les Congolaises ont repris leur couronne qu'elles avaient perdue il y a 2 ans au Niger.
Élysée, en plus du titre récupéré, celui-ci vient couronner la 10e consécration pour cette formation des juniors filles de l'Angola. 10 titres à elle seule, c'est énorme quand on sait que les deux poursuivants sont à 7 titres derrière. Cette domination dans cette catégorie pour les Angolaises est sans partage, ou presque. L'Égypte, de son côté, n'est pas passée loin d'un premier titre continental dans cette catégorie, puisque c'est à la différence d'un but seulement 18-17 que l'Angola a pris l'ascendant sur ses filles. Le même écart d'un but 9-8 était également le score à la pause. Que c'est fait dur et pénible pour les Angolaises de décrocher ces titres qui confirment une fois de plus la bonne forme du handball angolais, puisque le junior marche pratiquement sur les traces des seniors qui règnent elles aussi sans partage sur le continent. Et avec cette allure, toute catégorie confondue, la domination angolaise est loin de laisser place à la concurrence sur le continent.
La Tunisie, tenante du titre, vainqueur du pays hôte, la Guinée 30-27 en match de classement, termine à la troisième place. Jules, l'Angola, c'est la suprématie du handball féminin en Afrique.
Élisée, il faut d'abord dire que le handball est un sport qui correspond parfaitement aux aptitudes physiques des joueurs africains. Si l'on se réfère à la composition d'une des meilleures sélections féminines mondiales actuelles, l'équipe de France, dont la réussite repose essentiellement sur les performances des joueuses originaires du continent noir. De ce fait, la multiplication des compétitions, surtout dans les catégories jeunes, à l'exemple de celle qui vient de se dérouler à Conakry, va booster la formation et permettre à l'Afrique d'alimenter qualitativement le vivier indispensable au progrès de cette discipline dans le monde. Dans le handball féminin, par exemple, l'Angola a dans un premier temps fait le vide dans la sous-région devant les redoutables Congolaises et Camerounaises aujourd'hui distancées, avant d'imposer sa carte de visite sur le continent grâce à une organisation quasi professionnelle et aux performances régulières de l'équipe Fanion qui ont stimulé les vocations. Souveraines sur le continent, les Angolaises améliorent progressivement leur classement mondial au fil des compétitions internationales.
À présent, et à moins de 20 jours des barrages de la Coupe du Monde, les Lions indomptables du Cameroun ont un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Rigobert Song. Il remplace donc le Portugais Antonio Conceição, malgré la troisième place décrochée à la CAN que le pays a organisée. Âgé de 45 ans, l'ancien capitaine de la sélection arrive auréolé d'une belle réputation, malgré sa faible expérience d'entraîneur, puisqu'il bénéficie du soutien du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Valdo, une nomination qui suscite bien des interrogations, surtout à moins d'un mois du barrage pour le mondial que le Cameroun va disputer face à l'Algérie.
Beaucoup d'interrogations sur l'opportunité de confier la sélection camerounaise à Rigobert Song à un moment crucial pour cette sélection qui venait de sauver sa peau à domicile avec la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vraiment trop risqué et inopportune, hein, cette désignation. Parce qu'en face, l'Algérie est restée fidèle à son coach malgré la désillusion lors de cette CAN camerounaise. Et c'est un défi à relever. Alors que celui qui a mieux fait est mis out au profit d'un ancien grand nom du football camerounais. Mais attention, pourvu que ça passe pour lui, sinon ça risque d'être cette théorie comptable, last in, first out, pour Rigobert Song, puisque là, il est question d'une place à la Coupe du Monde. Si déjà, pour une CAN à domicile, la troisième place n'a pas pu maintenir les sélectionneurs à son poste, à combien plus forte raison une qualification manquée à la Coupe du Monde? À ces niveaux, les problèmes risquent de ne pas être Song, mais plutôt l'adversaire en face qui reste sur une dynamique de la continuité et des défis à relever, celui de faire de la qualification à la Coupe du Monde une alternative de ce qui n'a pas été à la CAN.
Capitaine Courage est respecté au Cameroun pour son excellence, son statut ou encore son charisme et son vécu de joueur. Alors, Jules Valentin Ngoué, l'est-il autant par son vécu d'entraîneur? Puisqu'il a un énorme défi, faut-il le rappeler, la double confrontation contre l'Algérie?
Bien sûr que non, Élisée. Le statut de sélectionneur est une situation récente pour l'ancien capitaine Courage des Lions Indomptables du Cameroun qui, depuis qu'il s'est reconverti, n'a fait ses classes qu'avec la sélection du Tchad, celle des locaux camerounais et les jeunes de moins de 18 ans de son pays. Mais pour comprendre les raisons de sa nomination, il faut se placer dans le contexte de refondation du football camerounais qu'a lancé avec l'appui de la plus haute autorité du pays, l'ancien Pichichi du FC Barcelone depuis son installation à la tête de la FECAFOOT. En effet, Samuel Eto'o, qui a reçu carte blanche,
a d'abord tenu à rompre avec les pratiques du passé en termes de fonctionnement. Et entre autres, il a clarifié le mode de choix du sélectionneur national. Ce choix revient sans équivoque au président Fegafoot et au vu de l'épaisseur financière de l'ancien Barcelonais, les substitutions de pratiques du principe de pourcentage qui entourait la signature du contrat des entraîneurs étrangers, alors choisis par les politiques, disparaissent elles-mêmes avec la mise à l'écart de Conceição, considéré comme le dernier produit de l'ancien régime. Ainsi, Rigobert Song récupère le poste de sélectionneur avec à ses côtés ses acolytes des années fastes, ses complices de l'axe défensif que sont Raymond Kala et le gardien Souleymanou, l'anglophone Augustin Simo et en arrière-plan le tacticien Joseph-Antoine Bell, tous diplômés. Pour plus de sérénité, on leur a ajouté un entraîneur adjoint et un préparateur physique plus classique qu'on retrouvait déjà dans l'entourage du très Camerounais Claude Leroy, l'homme qui a lancé Samuel Eto'o. Pas de doute, les décisions seront collégiales et l'objectif visé est de ramener ce qui a toujours fait la force des Lions, un esprit conquérant dans les vestiaires et sur le terrain, en partant aussi de l'héritage positif de Conceição et du retour de certains cadres comme Joël Matip qui boudait déjà la sélection. Tout ce beau monde compte faire de la double confrontation contre l'Algérie une étape référence pour lancer la nouvelle ère, celle des vrais footballeurs.
Merci Jules. Un sélectionneur local, c'est le modèle que certains pays veulent désormais adopter après le sacre des techniciens africains lors des deux dernières CAN. L'Algérien Djamel Belmadi avec les Fenech en 2019 et le Sénégalais Aliou Cissé avec les Lions du la Teranga récemment au Cameroun. Amine Birouk, après la CAN, le Nigeria a dû même renoncer de signer le Portugais José Pesero et la Mauritanie de faire confiance au Comorien Amir Abdou.
Modèle valable? Mais il va falloir tout de même que ces cadres fassent leurs preuves. Rigobert Song n'a pour expérience de coaching que celle de l'équipe du Chan. Et à l'époque, au Maroc, le Cameroun avait été éliminé au premier tour. On verra si, sur ce match-là, sa présence servira d'électrochoc dans un duel qui sent le souffre face à l'Algérie, elle-même entraînée par un cadre qui a fait ses preuves, Djamel Belmadi, et qui aura beaucoup de choses à se faire pardonner après le fiasco des Fenech lors de la dernière CAN. Donc, évidemment, il y a eu colère au Cameroun, il y a eu évidemment une remise en question qui a abouti au départ du technicien portugais, qui a permis aux Lions indomptables d'atteindre la troisième place de la CAN. Il en va de même du côté du Nigeria, où la décision de suspendre le contrat de José Pesero est en cours, et visiblement, ce n'est pas un phénomène de mode, mais plutôt une tendance qui pousse à faire confiance au cadre local, quitte à lui donner les moyens de réussir, de performer, de matcher. C'est ce qui a souvent manqué sur le continent africain. Et évidemment, on verra dans quelle mesure ces techniciens vont permettre à ces pays d'atteindre leur objectif, à savoir la qualification à la Coupe du Monde.
Voilà, Amir Abdou remplace donc le français Didier Gomez d'Arusa et ce sera Emmanuel Amunike qui dirigera les Super Eagles après leur double confrontation face aux Black Stars du Ghana. Amédine Sy, notons que pour y arriver, le Sénégal s'est patienté avec Aliou Cissé. Il a donc fallu 7 ans. Lawal, rares ceux ambitieux qui auront cette patience. Je vois mal le Nigeria, la voix, encore mieux, le Cameroun.
Non, c'est pas une question de patience, Élisée. Et quand on voit un peu l'expérience étrange, je commence par le Nigeria avec en 2013, Stéphane Keshi, il n'y a pas eu de patience. Il y est allé, il a remporté le trophée.
Et après, on l'a viré.
On l'a viré. Et quand on prend l'exemple de Jean-Paul Akono au Cameroun,
en 2000,
ce n'est pas nouveau que des sélectionneurs africains puissent remporter la Coupe d'Afrique. Donc, il faut peut-être faire l'expérience. Et c'est vrai que le timing avec Rigobert Song, qui aujourd'hui est soutenu par son ancien coéquipier des Lions Indomptables, le président Samuel Eto'o fils, ça peut peut-être paraître un peu trop précipité vu qu'il n'a pas assez d'expérience en la matière. Mais il faut faire l'expérience et voir ce que ça va donner. Même si le cas Aliou Cissé est un exemple, un cas atypique, parce que lui, il a patienté 7 ans, tout en étant en finale au moins une fois, pendant ces 7 ans-là. Donc, il faut véritablement faire l'expérience parce que les valeurs, il en existe en Afrique.
Voilà.
Il faut qu'on les mette en avant, qu'on les sorte de l'ornière pour qu'on puisse véritablement sentir ce qui se passe en Afrique. La seule désolation, c'est le Burkinabé qu'on a viré après la CAN. Bon, on sait pourquoi. Et Kaba Diarra aussi, qui est dans des difficultés avec...
Rapporté par un vent de changement.
Voilà. Donc, fondamentalement, il faut faire l'expérience et que les Africains tiennent les équipes africaines. On va voir ce que ça va donner. Parce que fondamentalement, il y a de la valeur en Afrique aussi.
Ouais, merci, Lawal. On le rappelle. Ces barrages auront lieu du 24 au 27 mars prochain. 5 belles affiches en aller-retour au programme. Outre Cameroun, Algérie et Nigeria, Ghana, on aura aussi Maroc, RDC, Tunisie, Mali et le très attendu Sénégal, Égypte. La direction de Londres en Angleterre pour clore cette émission et dire que Chelsea est à vendre. Une semaine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le propriétaire Roman Abramovich a ainsi confirmé la cession de son club champion d'Europe en titre. Alors, Lawal, c'est la fin d'une aventure de 20 ans qui aura porté les Blues au sommet du football anglais et européen.
Fin d'une aventure, mais forcément, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on a appris cette malheureuse nouvelle pour les Blues de Chelsea. Roman Abramovich a fait ce qu'il a pu. Il a amené donc les plus grandes stars de foot européens à Chelsea, en commençant par à faire signer l'indéboulonnable José Mourinho et en faisant venir de grandes stars et en remportant deux fois la Champions League. Il faut le dire, c'est une fin de règne. Pour Abramovich, il fallait qu'il passe la main parce que ailleurs, ça se fait. Et aujourd'hui, on espère que le repreneur de Chelsea va avoir autant d'ambition.
On l'espère
qu'il aura assez d'ambition, peut-être même plus d'ambition que Roman Abramovich, parce que fondamentalement, voir fondre Chelsea, comme ont fondu beaucoup d'autres équipes aujourd'hui qui n'ont plus véritablement la côte en Angleterre, ça fait pâlir un tout petit peu. Parce que pour les supporters des Blues, ça va être une déchirure. Ils vont avoir le cœur déchiré de le voir partir de cette façon-là.
Voilà, le milliardaire russe cède donc aux pressions de la guerre engagée par le président Vladimir Poutine. Jules, quelles conséquences sportives pour la Première Ligue?
Mais Élisée, la guerre est la manifestation absolue de la fracture du vouloir vivre ensemble. C'est le niveau le plus élevé de la violence sociale, avec tous ses états et tous ses effets collatéraux. Et lorsque le gouvernement russe prend la décision d'entrer en guerre, puis envahir l'Ukraine voisine, cela ne peut qu'impacter le monde du sport, où les acteurs russes vont dénoter et être expulsés de toutes les compétitions, ou se voir poussés vers la porte. C'est le cas du célèbre propriétaire du Chelsea, Roman Abramovich, que vous citez. Sur sa lancée, le club londonien va engranger de 2012 à 2021 deux titres de champion d'Europe et du monde. Mais le sport n'a plus de sens lorsque la guerre, la vraie, prend le dessus. Comme ce fut le cas de 1938 à 1950 pour cause de Seconde Guerre mondiale où l'Allemagne, alors au banc des accusés, dut attendre 1954 pour revenir, victorieux de surcroît en Suisse pour son retour international en Coupe du Monde. Alors Abramovich, qui était devenu londonien de cœur, n'a pas le choix. Il s'est résolu à vendre son équipe, pourtant à l'apogée de sa gloire. Bon joueur, le dirigeant russe a promis de reverser cet argent comme contribution au dédommagement des victimes ukrainiennes du conflit, ce qui a favorisé une séparation élégante, voire très très vite matérialisée par la large victoire de 4-0 du Chelsea sur le terrain de Burnley ce week-end. Une preuve, s'il en fallait, que le club anglais va poursuivre sa route et la Première Ligue aussi.
C'est fini pour Sporama de ce soir. On prend le rendez-vous lundi prochain pour notre numéro, le suivi de l'actualité sportive sur nos différents réseaux 24/24. Au revoir.
C'est parti pour la deuxième saison de la Basketball Africa League, l'événement basketball de l'année. La Voix de l'Amérique, en partenariat avec la Balle, vous fait découvrir l'événement phare du basket africain. 12 clubs en compétition pour succéder aux Amalek, vainqueur de la première édition. 38 matchs à disputer dans 3 pays, le Sénégal, l'Égypte et le Rwanda. Retrouvez les matchs en direct, les avant et après matchs, ainsi que des résumés quotidiens sur les ondes de la VOA et sur nos stations partenaires. La Basketball Africa League sur la voie de l'Amérique, que le meilleur gagne.